Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes 22 dans la chatroom. Salut Draco, salut Kevin, salut Samuel, salut Paul, salut Edmondson, salut Hélène. J'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. Ravie de vous retrouver. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Olek, salut Tom Tom. Je vous laisse le temps un petit peu d'arriver. Salut MacPaddy. Salut Tom. Hop, j'en profite pour... Non, c'est trop chaud. Je vais prendre mon thé, mais non. 5 sur 5, vous me recevez 5 sur 5. Parfait, j'ai la confirmation. J'espère que vous avez la forme, que vous avez des rayons de soleil par chez vous, parce que par chez moi, eh ben... j'en ai pas du tout, c'est tout gris, c'est tout moche, c'est tout triste. Donc on va se donner de l'énergie tous ensemble ce matin avec l'actualité tech. Voilà, à défaut d'avoir du soleil, on va avoir de la bonne humeur et on va être en bonne compagnie tous ensemble pour échanger sur nos sujets préférés. Il fait beau à Grenoble, mais écoute, Pierre-Yves, fais le plein de soleil pour nous tous. S'il te plaît, je crois qu'on en a besoin. Envoie-nous des rayons de soleil à travers le live. Il y a eu la conf E3 de Nintendo hier, c'était mon rayon de soleil. Bon, bah, c'est très bien, il faut trouver son rayon de soleil où on peut, parce que c'est franchement pas génial à Paris. Viens en Corrèze, même temps, mais c'est si beau ici. Ah oui, ça, c'est sûr qu'on n'a pas forcément la même vue, je pense. Je t'envoie le soleil de Lyon, bah merci, merci. Il pleut dans les embouteillages. Port colossal, je vois que toi aussi tu as besoin d'un rayon de soleil. Écoute, on va, avant d'aborder le sommaire qui pourra potentiellement te donner un peu de rayon de soleil et de bonne humeur, on va d'abord quand même prendre le soin et prendre le temps de remercier nos tipeurs sans qui nous ne pourrions pas continuer l'aventure évidemment Naotech, grâce à qui on peut du coup développer la chaîne, vous faire toujours plus de vidéos encore mieux produites. Voilà, et développer le projet Naotech. Et donc ce matin, on va remercier tout spécialement Jess, FDK, Dervis, Olivier, Derek et Inès. Un grand merci à vous cinq, tout particulièrement ce matin, de nous soutenir ou de nous avoir soutenus à un moment donné. Et puis pour ceux qui sont intéressés de savoir comment nous aider à continuer l'aventure et à nous développer, ben vous pouvez très bien vous rendre sur le site internet. Voilà, vous avez Samuel qui vous a mis le petit lien soutenir Naotech. Et là, vous trouverez différentes manières de nous soutenir. Il y en a qui ne coûtent pas un sou, hein, tout simplement les petits pouces up sur YouTube. Ben ça nous aide vraiment à nous faire connaître et à être recommandés tout simplement sur la plateforme YouTube, par exemple. Voilà, donc un grand merci à vous cinq. Mais de quoi va-t-on parler ce matin? Eh bien, justement, on va commencer par YouTube. Et oui, YouTube et même carrément les YouTubeurs en France. Et pourquoi? Bah, tout simplement, une association professionnelle s'est créée qui s'appelle la Guilde des vidéastes, qui vise du coup à avoir une voix un peu plus forte pour porter les valeurs, les besoins des vidéastes et se professionnaliser, un peu professionnaliser la profession des vidéastes sur Internet. Voilà, et donc pouvoir dialoguer. Donc c'est pas un syndicat, c'est une association, et on verra justement quel est son objectif et qui est-ce que ça concerne. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et puis on parlera un petit peu de la 5G en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire proposer la 5G en Europe sans Huawei, si on devait faire fi du partenaire Huawei, qui était quand même le favori pour aider à la mise en place et au développement de la 5G en Europe, et bien justement, on parlera un petit peu de ces projections. Qu'est-ce que ça veut dire, que ce soit en termes de temps? Est-ce qu'il y aura des délais? Évidemment, oui. Et est-ce qu'il y aura des coûts supplémentaires? A priori, oui. Donc, c'est intéressant de faire un peu l'état des lieux. Et puis, on parlera aussi d'une rumeur, donc à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas une annonce, ce n'est pas confirmé, mais une rumeur suite justement à la bêta d'iOS 13 qui a dévoilé un écran intéressant qui pourrait nous en dire un peu plus sur le prochain iPhone et qui pourrait du coup projeter l'abandon du port Lightning sur l'iPhone pour faire place à l'USB-C. Attention, c'est une rumeur. Encore une fois, je le rappellerai tout à l'heure. On parle rarement de rumeurs. On privilégie hein, quand on a un peu plus d'informations et de confirmations. Mais là, j'avoue que moi, ça me ferait plaisir et potentiellement, ça me donnerait une raison de mettre à jour mon iPhone. Je vous rappelle, j'ai toujours l'iPhone 10 qui fonctionne très bien la plupart du temps. Là, dernièrement, il m'a fait des petites surprises étranges, mais voilà, qui fonctionne encore très bien. Donc voilà. Une rumeur GND. Pas mal. Et puis, on prendra la température chez Tesla, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les plans? Où ils en sont? Et ben, on fera le point un petit peu avec le meeting avec les investisseurs, hein, le meeting des shareholders, où Elon Musk a pas mal parlé, s'est exprimé sur les plans de la boîte et qu'est-ce qu'on pouvait attendre cette année, quels étaient les plans. Donc justement, c'est assez intéressant et donc on fera le point un petit peu sur Tesla. Salut Jérôme et les gens. C'est pas Jérôme hein, aujourd'hui, Gaylor, à moins qu'on ait une tête qui se confonde, c'est Marion. Bienvenue à toi en tout cas. Et puis après les petites nouvelles concernant Tesla. On parlera de Firefox et de Mozilla. Mais eux, c'était la pub. Pas mal. Tu as une excuse, Gaylor, alors. Pas mal le coup de la pub. Non, on parlera de Firefox qui nous propose un nouveau logo. Excusez-moi, j'ai du mal à m'en remettre. Qui nous proposera un nouveau logo, des nouveaux logos, donc une mise à jour un petit peu de l'image de marque pour Firefox et Mozilla, et également le développement de nouveaux services pour Firefox qui tendraient vers le freemium, c'est-à-dire que ça resterait un service au niveau du navigateur qui serait gratuit, mais qui viendrait accompagné de plusieurs services qui, eux, seraient payant. Voilà, donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit, mais c'est intéressant de voir comment Mozilla et Firefox pensent se développer et tenter de se rendre moins dépendant de Google pour la monétisation, ce qui serait quelque chose d'intéressant, une démarche positive et assez alignée avec les valeurs justement de Mozilla. Je sais pas, mais le jour où tu auras un bouc et des lunettes, peut-être que l'on confondra. Bah écoute, Half-Life, j'en suis déjà à la moitié puisque j'ai des lunettes. Je ne les porte pas lorsque je fais le Techscope, mais si tu me croises dans la rue, je porte des lunettes. Donc j'ai 50% déjà du boulot de fait. Il me manque le bouc. Mais voilà. Bref, on arrête les bêtises. Et puis, après Firefox et Mozilla, on terminera avec DJI, donc le géant, le leader des drones sur le marché, qui donc aujourd'hui est sur le marché des drones et des gimbals, mais il se lance également sur un nouveau marché, un nouveau secteur, qui sont les robots. Et oui, DJI a annoncé son premier robot, le robot Master S1, S1 Tank. Il devrait mettre Ouais, non, le robot Master S1. Voilà. Et donc, on verra à quoi sert ce petit robot, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. En tout cas, il a l'air assez intéressant et le jouet a l'air assez cool. C'est un peu cher pour un jouet, on y reviendra évidemment, mais il a l'air assez cool. Je vous montre une petite photo pour teaser parce que il est cool. Hop. Voilà. Voilà pour le petit robot DJI avec lequel on terminera l'émission de ce matin. Il est 8h10, j'espère que vous êtes bien accrochés, que vous êtes tranquillement installés à votre table pour profiter de votre petit déjeuner, tranquillement vous réveiller du bon pied. Et puis moi, je vous propose de commencer avec le premier article. Premier article qui revient justement sur cette association, première association pour les vidéastes sur internet, qui s'appelle du coup la Guilde des vidéastes et qui a été lancée le 7 juin dernier. Donc c'est tout récent. Donc il s'agit évidemment d'une association professionnelle qui vise à donner plus de poids aux vidéastes et contribuer à la professionnalisation du secteur. C'est ce que je vous disais justement tout à l'heure. Donc c'est la toute première association professionnelle pour les créateurs de contenu sur internet. Et ça, c'est important. Donc ça vise évidemment à soutenir et à développer la pratique des créateurs sur internet, à défendre évidemment les intérêts de ceux et celles dont la carrière se passe sur internet et sur la vidéo. Et elle a été initiée par le directeur général Guillaume Hydro. Voilà. Et donc, ça a commencé un petit peu le projet d'association, de syndicat, etc. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore défini comme association ou syndicat. Et ils se posaient la question. Mais en tout cas, ce qu'ils savaient en 2017, déjà lors du festival avignonnais Frames, ils souhaitaient mettre en place une espèce de rassemblement des professionnels, des créateurs sur Internet, donc dédiés aux vidéastes. Pour l'idée, c'est de pouvoir se rassembler et pouvoir pousser et défendre des intérêts communs. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant comme initiative. Et c'est vrai que le statut de créateur sur Internet ou de vidéaste sur Internet peut être relativement précaire. Et là, on peut comparer à certains intermittents du spectacle, enfin, ou acteurs, etc. On peut à la fois très bien gagner sa vie et avoir une majorité qui galère un petit peu avec sa profession. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant justement de pouvoir se mettre en place, s'organiser, partager les bonnes pratiques, avoir un moyen de se rassembler et de se soutenir mutuellement, quoi. Perso, mon seul problème avec ça, c'est le nom Guild. Ça fait pas pro, ça fait pro que pour les artisans. Le nom association aurait été préférable. Ceci est mon avis. Oui, après, on peut évidemment discuter sur la pertinence du nom, quoi. La Guilde des vidéastes, ça me fait penser au personnage dans la série Scorpion. Guilde, ça fait un peu 16e siècle, un métier en voie de disparition. Vous êtes tous en train de bloquer sur le nom Guilde. Voilà, donc c'est vrai que voilà, l'initiative, c'est également de permettre la professionnalisation du secteur, permettre aussi de donner un statut social à ces vidéastes avec des conventions collectives et mieux les protéger au niveau législatif. Tout ça, ça sera plus facile à pousser justement en organisant un espèce de rassemblement de personnes qui ont un intérêt commun, cette pratique et cette profession commune pour pouvoir justement partager les points de vue et pousser certaines mesures qui sont importantes. Donc tout simplement pour faire valoir leurs droits. Donc voilà, ça sera assez intéressant. Alors évidemment, ils ont fait le choix de mutualiser avec celle des autres métiers de l'audiovisuel, mais justement, ils pourront mettre en place et discuter de potentielles annexes qui seront plus adaptées à la profession sur Internet, à la création sur Internet. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, donc c'est vrai que le débat commence à arriver même à l'échelle du gouvernement, notamment sur l'encadrement du travail des enfants sur YouTube. Vous savez que normalement, il y a tout un cadre légal sur le travail des enfants. On peut pas les exploiter comme ça. Sauf qu'avec ce nouveau genre de pratique sur Internet, et ben évidemment, il y a un peu des trous dans la raquette dans le cadre législatif. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser, de se poser la question sur ces nouveaux cas, sur ces nouvelles pratiques et ces nouvelles professions. Donc du coup voilà, on a un peu une liste des missions de cette guilde. Sortir les vidéastes de l'isolement, c'est une des premières missions. Je sais que déjà, Jérôme pour l'instant n'en fait partie, hein, n'en fait pas partie. Avec Naotech, on n'en fait pas partie. Mais c'est intéressant parce que depuis quelques mois, pratiquement, je dirais un an, on voit l'évolution de la profession hein, de créateur sur Internet. Et on sent aussi que les créateurs essayent de se rassembler, de partager des bonnes pratiques, de s'entraider. Et d'avoir une meilleure connaissance sur comment négocier des partenariats, de qui il faut se méfier, etc. Qui sont les interlocuteurs qui n'ont pas d'éthique, etc. Donc, pour se protéger, pour se renforcer et pour pouvoir mieux négocier sur sur sa profession. Donc là, c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a des communications, des ponts de communication qui sont en train de se créer pour sortir justement de cet isolement. Donc ça, c'est une des missions de la guilde. Il y a également développé un réseau d'accompagnement à la web création sur tous les territoires, accompagner la professionnalisation et le développement socio-économique des vidéastes pour renforcer le business model, hein, notamment. Mener une réflexion et des études permanentes sur le secteur d'activité, lutter contre les inégalités et discriminations, appuyer juridiquement les vidéastes dans leur démarche. Des fois, on peut se sentir assez seul justement dans ces méandres légaux. Valoriser la filière professionnelle, soutenir la formation au métier de la web création, créer une force de dialogue avec les institutions et entreprises du secteur. Donc, avoir plus de force, plus de poids pour négocier et faire évoluer justement la représentation des créateurs Internet. Voilà. Donc le but, c'est évidemment d'avoir des règles qui cadrent un petit peu et qui sont spécifiques à l'activité. Il y a notamment les vocations de minima sociaux, etc. Bref, il faut aussi prendre en compte que les situations sont vraiment différentes d'un créateur à un autre. Et donc justement, ce sera des sujets qui seront abordés. Le Conseil d'État, d'ailleurs, s'y intéresse déjà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc, il y a eu déjà hein, des initiatives qui ont été faites, de la reconnaissance justement de cette pratique de vidéaste sur Internet. On en avait déjà parlé hein, avec le CNRS, les musées ou les régions qui commencent justement à conclure des partenariats avec les youtubeurs. On avait également le CNC depuis 2017 qui a mis en place un fonds d'aide aux créateurs. Donc, ça, c'est intéressant également. Mais voilà, donc à voir un petit peu, mais c'est intéressant, le Conseil d'État est demandeur en tout cas de pouvoir s'entretenir et réfléchir sur cette nouvelle pratique et cette nouvelle profession. Et justement, la Guilde a été déjà invitée par le Conseil d'État à participer aux auditions sur la directive européenne controversée sur les droits d'auteur. Donc ça serait intéressant d'avoir justement une association de professionnels du secteur qui pourra exprimer le point de vue et les enjeux, les challenges auxquels on est confronté au quotidien aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Qui fait partie de la guilde des vidéastes aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on a 40 vidéastes qui font partie de cette guilde, entre autres Solange Te Parle, OGG, Le Fossoyeur de Films ou encore Florence Porcel. Entre autres, hein, parmi tant d'autres, évidemment, il y en a une quarantaine. Voilà, le but, c'est d'ici fin 2019 d'atteindre les 150 membres pour avoir un poids et une reconnaissance suffisante pour pouvoir s'entretenir et être crédible en face d'institutions et en face du gouvernement pour pouvoir négocier des mesures. Voilà, et être crédible en face des institutions. Donc voilà, petite annonce, je pensais que c'était quand même important qu'on en parle. Nous, en tout cas, on va s'y intéresser, on va regarder ça de près. C'est vrai qu'on n'avait pas suivi l'affaire, pour être honnête. On a commencé, hein, comme je disais, on a commencé à nouer des liens assez proche avec certains collaborateurs vidéastes avec qui on s'entend particulièrement bien. Et du coup, ça nous permet justement de nous renforcer, de discuter, d'échanger, hein, tout simplement sur la profession. Et du coup, là, c'est intéressant, c'est quelque chose, je pense qu'on va se poser la question si on souhaite rejoindre ou pas cette guilde. Il faut qu'on s'intéresse un petit peu de plus près. Alors, c'est pas un syndicat, hein, c'est vraiment une association. Maintenant qu'ils sont un syndicat, je me demande à quoi ça va ressembler les grèves de youtubeurs. C'est quand même chaud de se décrédibiliser juste avec le nom du groupe. Il faut différencier les amateurs des youtubeurs pro, petits, grands comme vous. Ce serait bien que vous y soyez aussi. Bon, en tout cas, on sent que ça montre une certaine maturité, maturité de cette nouvelle profession, quoi. Et ça, je pense que c'est bien que ça soit vu, quoi. Tout simplement. C'est encore un peu chaud. Voilà pour la guilde. C'est vrai que ça fait un peu. Moi aussi, quand je l'ai lu au début, j'ai fait waouh, la guilde des vidéastes, ça fait un peu jeu de rôle, Heroic Fantasy. Je me suis projetée dans le Seigneur des Anneaux. Mais bon, c'est un nom, hein. Je suis d'accord que c'est important, mais bon. Dans tous les cas, ça évolue dans le bon sens. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc je vous propose d'enchaîner avec un petit peu les projections sur le développement et la mise en place de la 5G en Europe si on devait faire fi du partenaire chinois Huawei qui est évidemment en galère actuellement avec la guerre commerciale qui a lieu entre les États-Unis et la Chine actuellement. Et donc justement c'est intéressant parce que si chaque pays, là c'est vraiment une projection, hein, mais si chaque pays en Europe devait suivre la position américaine d'exclure Huawei et notamment de ses déploiements 5G, eh ben on peut se heurter à des réalités économiques et industrielles qui sont pas forcément favorables et qui vont être un petit peu douloureuses. Donc du coup là, la GSMA, l'association regroupant les principales entreprises de l'industrie des télécoms, estime justement que déployer la 5G en Europe sans avoir recours à Huawei pourrait avoir justement de lourdes répercussions. Tout d'abord en temps. C'est-à-dire que ça allongerait de 18 mois la mise en place et le déploiement de la 5G avec la construction des infrastructures nécessaires, etc. Donc voilà, par rapport au calendrier que se sont fixés les grands opérateurs aujourd'hui, ça rallongerait de 18 mois. Donc c'est quand même conséquent. Et puis évidemment, après, il y a le point de vue financier. Et ben évidemment, là aussi, ça coûterait sensiblement plus cher. Il y aurait notamment un surcoût de 55 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. Et donc du coup, voilà, de passer. Donc là, on a justement le passage de 3 à seulement 2 fournisseurs d'équipements 5G. Et du coup, ça serait juste ce passage-là, hein, de retirer Huawei de l'équation. Ça serait du coup la responsable de la hausse des coûts et du fait que évidemment le matériel et les équipements de Huawei sont meilleur marché, hein, tout simplement. Certains opérateurs se verraient forcés à revoir une partie de leur infrastructure car elles sont déjà prêtes à accueillir évidemment les équipements chinois. Donc ça veut dire c'est là où aussi le surcoût peut être généré, c'est qu'il faudrait retravailler sur toutes ces installations qui sont déjà prêtes pour pouvoir changer de stratégie et fonctionner avec un nouveau fournisseur. Voilà, donc ça les obligerait évidemment à repenser certains points de leur réseau et notamment en France, qui est-ce que ça impacterait? Et ben ça impacterait tout simplement Bouygues Télécom et SFR. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il faut quand même rappeler qu'en Europe, il y a quand même plus de 200 opérateurs, hein, et que du coup, c'est pas le même marché que les États-Unis que les États-Unis, qui regroupent juste quelques opérateurs. Voilà. Donc du coup, c'est plus facile aux États-Unis de comment dire? Même s'il y a ses propres enjeux, hein, mais c'est plus facile pour les États-Unis de se dire on va se séparer de Huawei. Pour l'Union européenne, c'est un enjeu quand même un peu plus compliqué puisque, en effet, le marché est bien plus fragmenté. Voilà. En tout cas, ça représente évidemment un marché énorme pour les équipementiers européens, hein, notamment Ericsson et Nokia. Et ils sont déjà évidemment dans la course au marché avec Huawei. Mais voilà, ça pourrait être un enjeu important si la situation venait justement à exclure Huawei de l'équation. Voilà. Mais ça aurait des coûts et des répercussions très très importantes. En tout cas, je trouve quand même qu'ils ont réussi à bouger relativement vite dans la mesure de pouvoir fournir ce rapport. Enfin, je suis assez surprise de la rapidité à laquelle ils ont pu fournir le rapport sur justement la projection de qu'est-ce que ça voudrait dire d'enlever Huawei des acteurs du déploiement et de la mise en place de la 5G en Europe, quoi. Je ne sais même pas si mon S10 est compatible 5G. Alors, je pense que d'abord, il faut le penser dans le bon ordre, Half-Life. Ça ne sert à rien d'avoir un téléphone équipé 5G si en fait l'infrastructure n'est pas prête. Donc en fait, ce qui déterminera aussi la rapidité des constructeurs de smartphones d'être compatibles 5G ou pas, c'est aussi la rapidité de la mise en place et de la couverture du territoire, tout simplement, en 5G. Virer Huawei de la guilde des équipementiers 5G. C'est à peu près ça, Olek. Voilà. Je vous propose de continuer avec. On reste un petit peu sur les smartphones, mais cette fois-ci plutôt du côté de Apple, tout simplement. Donc, on va pas parler 5G, réseau, etc., mais on va s'intéresser tout simplement aux rumeurs de l'iPhone. Alors, attendez, je lis un peu vos commentaires. C'est surtout les box 5G qui vont être cool pour bien répartir le numérique sur le territoire. Franchement, entre nous, est-ce qu'aujourd'hui la 5G est réellement obligatoire? Laetitia, je suis d'accord, hein, ce n'est pas une notion d'être obligatoire, c'est une notion d'être au niveau technologique par rapport aux autres pays à l'échelle mondiale, quoi. Et prendre du retard sur la 5G, ça peut avoir des conséquences. On ne sera pas les seuls à en pâtir, mais ça peut avoir des conséquences. Et justement, c'est pour ça qu'on en parle. L'industrie nous dit déjà que peu la 4G pour les actions de terrain. Du coup, la 4G est parfois saturée, mais arrêtons-nous de nous presser. Sérieux, l'affaire Huawei n'a pas un mois. Edmund Soon, je suis d'accord, hein, il faut pas non plus grossir l'affaire, mais il faut aussi quand même prendre la mesure de l'affaire, et c'est ce qu'on essaye de faire justement, et je pense que c'est intéressant. Le rapport est pas là pour dire oh mon Dieu, catastrophe, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est de comprendre la portée des décisions qui sont prises. Et je pense que c'est important quand même de pouvoir prendre des décisions en étant informé au lieu de se voiler la face et de dire plouf plouf, choisis comme ça, quoi. Donc je pense que faire ces rapports, c'est important de pouvoir justement étudier les options qu'on a pour comprendre les impacts et les répercussions de chaque décision qui sont prises. Et justement, là, je suis assez étonnée qu'ils aient pu bouger aussi rapidement. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la guerre commerciale qui a lieu actuellement entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, ça impacte Huawei, mais ça impactera bien plus que Huawei. La preuve, ça impactera la compétitivité des pays de l'Europe si ça continue comme ça. Donc voilà, c'est quand même important de s'y intéresser. Voilà, on continue du coup avec Apple. Apple, qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, hein, disclaimer, attention, ce n'est pas une information qui a été annoncée, qui a été confirmée, ce n'est qu'une rumeur. Une rumeur basée sur quoi? Basée sur un screenshot, une photo qui a été prise suite à la mise à jour iOS 13. Voilà, sur une photo du mode recovery d'iOS 13. 13 et qui est comparé au mode recovery d'iOS 12. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous montrer quand même la photo. Hop! Voilà, la photo est celle-ci. Donc là, vous avez un screenshot d'iOS 12 avec justement le recovery mode où vous pouvez brancher votre iPhone sur l'ordinateur avec iTunes pour pouvoir faire le recovery mode. Donc là, on voit bien qu'on a un câble Lightning. Et puis là, on a le recovery mode, mais cette fois-ci, donc mis à jour ici, c'est plus l'icône iTunes, mais un icône de MacBook, tout simplement parce que iTunes a été annoncé comme quoi ça serait mort, que ça serait supprimé d'Apple. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est la mise à jour aussi du câble. Câble qui est plus stylisé, et ça pourrait être aussi une notion de « il est juste plus stylisé », mais il ne montre plus que c'est un câble Lightning. Et ça pourrait être justement un câble USB-C. Et ça pourrait donc dire que le prochain iPhone proposé par Apple serait donc avec un branchement USB-C et plus Lightning. Ce qui serait intéressant parce que ça suivrait justement l'évolution des iPads. Et ça serait logique en tant que tel. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que ça serait Apple qui dirait adieu au marché que représente justement le branchement propriétaire Lightning avec tous les accessoiristes c'est pas une licence mais c'est le standard MFI là, enfin le, alors attendez, j'essaie de vous retrouver l'information. Perdu, oui voilà, si c'est bien ça, le programme de licence MFI. Ouais, le scotch sur la caméra selfie de l'iPad, ouais. C'est pas que je suis paranoïaque, mais bon voilà, quand j'utilise pas FaceTime, j'ai mon petit scotch. C'est plus un visuel générique. Ben voilà, le tutoriel, c'est bien pour ça. Moi, j'ai un petit doute. Hein. C'est vrai que l'article de Forbes dit « mon Dieu, c'est un câble USB-C. Ça y est, on y va. » Ça pourrait être un câble USB-C. Ça pourrait encore un câble Lightning plus stylisé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien pour ça que je dis que c'est pas du tout, du tout confirmé et que c'est pas du tout assuré. Hein. C'est une rumeur. Donc là, tu dis, je pense que plutôt qu'ils vont mettre un câble USB-C vers Lightning, Vincent, là, clairement, le sens, c'est... oui, donc toi, tu penses en effet que l'un des bouts du câble sera Lightning pour l'iPhone et l'autre bout du câble sera USB-C pour le Mac. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu voyais le câble sur l'autre screenshot d'iOS 12, ils avaient mis Lightning vers Mac, vers iTunes, tu vois. Et ils avaient gardé le bout Lightning, ce qui est un peu étrange en effet, mais voilà, ça montrait une connectivité qui était compatible avec l'iPhone. Difficile là, tu vois. Oui, tout à fait, Vincent, l'ancien dessin n'était pas cohérent, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il pourrait potentiellement s'agir que de ça. Mais ça pourrait être aussi... c'est pour ça que c'est une rumeur, hein, c'est ce qui est chiant dans les rumeurs, c'est qu'on peut spéculer à l'infini, c'est que ça pourrait être aussi une mise à jour avec l'USB-C. En tout cas, pourquoi je voulais vous en parler? Tout simplement parce que moi, j'ai aucune raison de changer d'iPhone. Il fonctionne très bien à part des petits moments où il s'éteint et il ne veut pas se rallumer pendant 15 minutes. Ça m'est arrivé dernièrement, je suis un peu paniquée, mais j'ai pas de raison de changer de smartphone. Il a 2 ans, certes, mais en fait, il fonctionne très bien. Moi, j'ai l'iPhone 10, l'iPhone X, et j'ai pas de raison d'en changer. Mais par contre, si c'était pour uniformiser les connectiques, là, pour le coup, je serais tentée. Pour être honnête, je serais tentée. Pourquoi il n'était pas cohérent, Tom, tout simplement parce que tu n'as pas de branchement Lightning sur un Mac. C'est des branchements USB ou USB-C pour les derniers modèles. Tout un ramdam pour un connecteur. Je savais que j'allais vous faire démarrer dans la chatroom avec ce type d'article. Jérôme m'avait pas dit qu'il n'y avait pas de rumeurs dans Techscope. En général, on évite, mais des fois, on craque. Perso, je suis encore très contente avec mon 6S Plus. C'est ça, hein, c'est que ça vieillit bien, ces petites bêtes. Ça vieillit bien. Donc voilà, on peut continuer à spéculer, mais c'est intéressant de voir ça. C'est marrant parce que Forbes, l'article se gosse un peu de dire oh, mais mon Dieu, personne ne l'a vu, mon Dieu, personne ne l'a vu. Mais en fait, c'est flagrant, c'est de l'USB-C, etc. Alors qu'en fait, concrètement, il n'y a aucune. On peut spéculer, quoi. Ça peut être un schéma qui est un peu plus schématique et un peu plus stylisé, qui va moins dans les détails du connecteur. Ou ça peut être de l'USB-C, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de confirmation. À voir, et on aura le temps de spéculer d'ici septembre 2019. Je vous propose de continuer, et cette fois-ci, on va prendre des nouvelles de Tesla. Donc là, on va dire que c'est confirmé, mais il faut aussi prendre avec des pincettes, parce qu'on connaît Tesla pour faire pas mal d'annonces et pas forcément les respecter. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais c'est quand même un peu plus plausible, puisque c'est justement Elon Musk qui en parle, même s'il est quand même connu pour faire des plans sur la comète, de manière très très optimiste, sans justement marquer les paliers importants. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est tenu là, c'était cette semaine. Oui, c'était mardi, tout simplement. Il y a eu une réunion avec les investisseurs, tout simplement, de Tesla à Mountain View en Californie. Il y a eu plusieurs informations, plusieurs annonces de fait, notamment étendre la capacité des voitures, notamment à 400 miles. Voilà, donc je ne me souviens plus de la capacité actuelle des voitures Tesla aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée, c'est d'étendre l'autonomie et la capacité de ces voitures. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il dit que l'année prochaine, les conducteurs seront capables également d'utiliser la fonctionnalité de conduite autonome des véhicules sans aucune intervention. Donc là, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que juste après, on apprend que c'est quand même en changeant l'ordinateur de la voiture, mais pas en changeant la voiture en elle-même, mais en mettant à jour l'ordinateur à l'intérieur de la voiture, que les voitures pourront être autonomes et compatibles avec le système d'autonomie. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'ils n'ont pas quand même besoin de changer toute la voiture. Et ça, c'est quand même assez inédit dans le marché automobile de se dire que votre voiture que vous avez achetée il y a 1 ou 2 ans va s'améliorer, se perfectionner et avoir des nouvelles fonctionnalités qui sont pas quand même anodines. Hein. La conduite autonome, c'est quand même quelque chose de très important. Et voilà, et de sans avoir besoin de changer de modèle de voiture, de pouvoir mettre à jour son modèle de voiture. Donc encore une fois. Là, c'est pas encore acté, hein, évidemment. Il faut encore qu'ils aient le cadre légal et que ce soit possible, tout simplement, à l'échelle internationale, hein, dans chaque pays. Mais c'est assez intéressant quand même comme projection. Voilà. Qu'est-ce qui se passe également? Ils ont annoncé aussi que d'ici la fin de l'année, ils vont annoncer notamment une localisation pour une nouvelle usine pour fabriquer des batteries et des voitures. Donc une nouvelle gigafactory qui serait localisée donc en Europe. Donc ça, la localisation sera annoncée en fin d'année, pas avant, mais on va avoir en tout cas une annonce d'ici la fin d'année pour une nouvelle usine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ils tiennent toujours leur projection, hein, pour ce trimestre-là de produire pour la fin du trimestre de 90 000 à 100 000 modèles de voitures. Voilà, pour la fin de ce trimestre-là. Donc, ils se tiennent à leur projection pour l'instant. Ils essayent d'augmenter la production des voitures tout en réduisant la main-d'œuvre, puisqu'ils ont eu toute une vague de licenciements pour restructurer un petit peu le cycle de production des voitures Tesla. Ils se développent également en termes d'usines. Donc là, je vous avais dit que d'ici la fin de l'année, ils allaient annoncer une nouvelle localisation pour une Gigafactory en Europe. Mais aujourd'hui, ils sont déjà en train de construire une nouvelle usine localisée à Shanghai. Voilà, donc une Gigafactory 3 qui, elle, est localisée à Shanghai et en cours de construction a priori. Voilà, ce qui s'est passé également, c'est l'annonce qu'il dévoilerait le Tesla Pickup cette année. Vous savez, le Pickup Truck de Tesla, il sera dévoilé cette année. Voilà, donc à la fin de l'été 2019, et la production de leur plus gros camion, donc semi-truck, lui sera prévu pour la fin 2020. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir une photo du semi-truck, puisque justement, ils ont encouragé les personnes qui étaient présentes à la réunion à prendre des photos et à partager sur les réseaux sociaux les photos des différents prototypes et véhicules qui étaient là. Donc là, voilà, vous pouvez voir une photo du semi-truck. Ouais, ça y est, il y en a qui disent que c'est moche. C'est sûr que ça change un petit peu, ça change comment dire, des looks de camions auxquels on a l'habitude. Après, il faut, enfin, je ne sais pas si vous avez vu des camions aux États-Unis, mais ils sont quand même assez différents des camions en Europe. Donc, il y a aussi une phase d'adaptation et d'habitude, mais clairement, là, c'est plutôt un camion qui répond plutôt aux exigences américaines avec la taille des routes, etc. Je suis pas très très perturbée par le look du camion, mais en effet, il ressemble plus à un camion américain qu'à un camion d'Europe. Et la taille n'est pas la même, l'échelle n'est pas la même. Enfin, voilà. C'est le designer du Fiat Multipla qui a fait ça, je suis sûre. C'est pas mal, Olek. Putain, je me rappelle du Fiat Multipla. Enfin, ouais, c'était trop bizarre comme forme, ouais, c'est vrai. Bref, je pense que c'est surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir ce look de camion. Mais encore une fois, les camions aux États-Unis, ils sont énormes, tout à fait aux US. Et puis, ils n'ont pas tout à fait la même forme. Ils sont un peu plus comme ce qu'on voit ici, un peu plus old school, évidemment, mais ils sont plus cohérents avec ce que Tesla a fait. Et c'est vrai que nous, ça peut nous choquer un peu. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, au niveau des parts de Tesla en bourse, hein, c'est pas la joie, puisque si on se rappelle l'année dernière, à la même époque, je vais y arriver, hein, j'ai un peu du mal ce matin, la valorisation était à 342 dollars la part, et aujourd'hui est à 217 dollars à peu près. À quelques poussières près, à 217 dollars. Donc voilà, il y a eu quand même une baisse de 36% de la valeur des parts de Tesla. Mais voilà, en tout cas, ça serait intéressant à suivre et c'est quand même pas mal d'annonces, de confirmations, voilà, qui montrent un peu que Tesla est toujours voilà, sur son plan à long terme. Perso, j'aime bien ce camion. Il doit être une masse aérodynamique. Ouais. L'autocorrection de Vaya. Oui, il y a des gens qui transforment ces gros câlins en sorte e camping-car. Ces gros camions, je pense. Ah, l'autocorrection, ça fait des ravages. Je vous propose de continuer en vous donnant un aperçu du nouveau logo de Firefox. Et oui, la marque évolue et du coup, ses logos aussi. Et donc, bah, sans plus tarder, hein, je vous propose de regarder un petit peu l'évolution. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est devant une série de logos. Donc là, on a Firefox, ici. Et puis, on a, donc là, Firefox avec juste une flamme, ici. Et puis, on a Firefox Browser, où on retrouve notre petite planète Terre avec le petit renard, un peu plus stylisé, très enflammé et un peu plus stylisé, et qui met la planète un peu plus en valeur qu'auparavant. Et après, des autres logos, tout simplement pour les différents services de Firefox, que ce soit le transfert de fichiers avec un lien qui se périme, ou tout simplement un gestionnaire de mots de passe pour synchroniser à travers vos différents devices. Bref, voilà. Donc, ils ont mis à jour un petit peu leur langage visuel et leur langage de marque pour pouvoir justement étendre un peu leur gamme de services et être plus compatible et avoir une cohérence de marque. Instagram demande à récupérer sa palette de couleurs. Vous êtes mais intransigeant dans la chatroom. Le logo évolue lentement, mais sûrement. Oui, bah, il mûrit, hein, tout simplement. Je pense que c'est une évolution logique. Est-ce que je peux vous montrer justement l'évolution? Ah mince, j'ai pas il me semblait que j'avais quand même. Voilà. Donc là, vous parliez d'évolution. Donc là, vous voyez, vous avez l'historique du logo Firefox Browser. Donc là, on voyait le premier, enfin un des premiers en tout cas, très très illustratif, avec le petit renard sur la planète, qui se repose un peu sur la planète. Puis après, il l'englobe un peu plus. Et là, carrément, il le soutient. Donc là, c'est l'avant-dernier. Et là, c'est le dernier. Voilà. Donc, ça a une évolution assez logique, assez naturelle. Il va sur quelque chose d'un peu plus stylisé. Toi, tu préfères celui-là, Abidjan? Rumeur de la WWC 2020. Le sketch sur la caméra iPad bientôt disponible à 69 euros. Non, mais vous foutez de ma gueule, là, dans la chatroom. Et vous foutez de la gueule d'Apple aussi. Ah, et c'est bien mérité. Mais ouais, je sais, je suis peut-être ridicule et puis j'assume. Beaucoup moins de détails dans le logo. Oui, tout à fait, Tom Thomas. On va vers une simplification. Set the world on Firefox. Pas mal le tutoriel. Le logo évolue aussi vite que Firefox. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui s'y connaissent en branding, mais vous ne changez pas de logo toutes les semaines. Hein. C'est plutôt le fait qu'un logo évolue peu ou lentement, ça montre aussi qu'il est dans son temps, quoi. Qu'il est pérenne. Un logo, c'est pas vous ne changez pas de chemise, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, il y a un changement de stylisation, il y a aussi un changement de couleur. Vous avez vu qu'on sépare peu à peu de ce bleu qui permettait aussi de comprendre que c'était la planète Terre hein, dans le message. Et on va vers une gamme plutôt violet. Et c'est intéressant parce que justement, parce qu'ils vont exploiter un peu plus les dégradés, etc. Donc ils ont trois dégradés, un noir vers un violet vers un bleu vers un plutôt rose, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ça, où c'était violet vers rose et rose vers jaune. Je crois que c'était ça. Bref, voilà, j'avais vu. Mais vous pouvez consulter l'article de toute façon du branding de Firefox. Hein. Vous aurez accès de toute façon sur le blog de Mozilla, vous avez accès justement à un article qui détaille et qui annonce justement la mise à jour du branding de Firefox. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous y rendre, vous avez un peu plus de détails. Mais du coup, je continue parce que du coup, au-delà d'un rebranding, il y a aussi Mozilla qui essaye de se diversifier. En proposant des nouveaux services. Et ça, c'est intéressant. Ils évolueraient du coup plutôt vers un modèle freemium, hein, qui est assez répandu sur le web. Pour exemple, c'est tout simplement démarrer avec un service de base qui est gratuit et vous pouvez bénéficier de services complémentaires qui sont, eux, payants. Et donc du coup, de quoi il s'agirait? Ben, on aurait comme projet un service de VPN ou un espace de stockage dans le cloud. Ce sont des exemples. À savoir que Mozilla pour le VPN, ça serait assez logique puisque ils sont déjà partenaires d'un prestataire de VPN depuis octobre 2018. Et il s'agit d'ailleurs de Proton VPN. Voilà. Et justement, le fait de proposer un service de VPN ou même ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'utilitaire pour sécuriser vos mots de passe, etc., c'est assez logique aussi avec les valeurs et la vision de Firefox. Donc, je trouve ça assez assez cohérent, justement. Et puis, donc, il y a aussi ensuite l'hébergement dans le cloud, qui est un peu un enjeu important aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, justement, on voit un peu que Mozilla aimerait bien se rendre un peu plus indépendant en termes de monétisation qu'il ne l'est aujourd'hui. À savoir, pour rappel, 90% des revenus de Mozilla viennent aujourd'hui de Google. Voilà, donc plus généralement des autres accords dans la recherche web, mais voilà, c'est quand même principalement Google, puisque Google est le moteur de recherche par défaut de Firefox dans la plupart des pays du monde. Le reste est généralement issu des contenus sponsorisés dans l'application Pocket. Voilà. Petite pause. Il y a un débat sur le nom Firefox. Il y en a qui racontent leur vie comme quoi ils ont vu un renard sur le bord de la route. J'adore comment on commence un sujet sur le logo de Firefox et on termine sur vendredi soir, j'en ai vu un au bord de la route. Il n'a pas traversé la chance. Perso, tant qu'il reste open source et libre, j'accepte. Oui, ça fait partie de leur valeur en tout cas. Hein. Vous pouvez d'ailleurs le voir, je peux revenir et vous rappeler un petit peu les valeurs de Mozilla. C'est sur leur article de blog si vous souhaitez en savoir plus. Mais leur valeur, c'est radical. Donc c'est radical d'être optimiste à propos de notre futur et le futur d'Internet. C'est un acte radical de servir les autres avant soi-même. Et on perturbe le statu quo parce que c'est la bonne chose à faire. Je vous fais de la traduction en live, donc excusez-moi pour l'hésitation. Ensuite, une note de leur valeur, c'est kind. On veut ce qu'il y a de mieux pour Internet et pour le monde, donc on donne l'exemple. On veut construire de meilleurs produits, démarrer des conversations, être un partenaire, collaborer, éduquer et informer. Notre empathie s'applique à tout le monde. Ils sont ouverts, donc open. Ils sont ouverts d'esprit, ouverts de cœur, ou open source, un open book. Donc, ils font de la transparence et de la perspective globale de leur marque en parlant plusieurs langues et le fait que la transparence se reflète sur pas mal d'axes. Donc à la fois open source, open-minded, etc. Donc ils sont open. Et puis la dernière valeur, c'est opinionated. Donc nos produits prouvent qu'ils ont des convictions fortes. Ils donnent une voix à leur point de vue. Voilà. Et en gros, ils mettent leur valeur sur le devant de la scène, quoi. Ça fait partie, enfin, leurs valeurs font partie de la valeur ajoutée aussi de Firefox. Et généralement, quelqu'un qui va utiliser Firefox va aussi l'utiliser pour les valeurs qu'il représente, quoi. Voilà. Voilà pour Firefox. Et puis, on termine rapidement, parce qu'il est 8h54, pour parler un petit peu du nouveau business sur lequel se lance DJI. Et il s'agit des robots. C'est du bullshit, tout ce discours. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, hein, Jared. Hein, je t'invite à regarder les valeurs des autres marques. Et c'est quand même assez intéressant de voir comment les marques se positionnent. Et si ils sont, comment dire, alignés avec leurs valeurs. Et s'ils respectent leurs valeurs. Voilà. Après, tu n'es peut-être pas sensible à ce type de discours, mais c'est quand même intéressant. Et donc, du coup, on termine avec DJI Robot Master S1. Voilà, qui est un petit robot mais cher, hein, 499 dollars, qui vous permet, qui est contrôlé par une télécommande et qui permet d'avoir plein plein de petites options. Avec pas mal de capteurs, avec un espèce de blaster qui va shooter des petites balles qui font pas mal, qui peut être contrôlé donc voilà, qui peut être contrôlé à distance, qui peut être codé. Vous pouvez améliorer ses fonctionnalités, ses options et ses capacités en codant. Et donc, ça a l'air assez fun. Il peut aller dans n'importe quelle direction, même sur le côté. Il est capable d'évoluer sur un terrain qui n'est pas égal aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il est contrôlé via une application mobile qui va justement utiliser la caméra du robot pour vous permettre de faire à peu près n'importe quoi. Vous pouvez faire des batailles, des courses, etc. Vous pouvez le programmer pour faire des tâches différentes. Il utilise notamment quelques-unes des technologies de machine learning de DJI que DJI a développées. Il peut suivre et reconnaître des marqueurs visuels. Il peut suivre une personne. Il peut reconnaître des gestes. Il peut suivre des chemins qui sont dessinés sur le sol. Donc ça, c'est assez cool. Et après, il a tout un programme pour apprendre à coder. Et donc ça, c'est cool, qui peut utiliser Scratch 3.0 ou Python, voilà, qui va permettre de faire des manœuvres un peu spéciales qui peuvent être utilisées soit en combat, lorsque vous faites des combats de robots, ou tout simplement même ajouter des accessoires customisés. Il y a des pulses. Des ports modulaires, donc il va vous permettre de customiser un petit peu le robot avec des accessoires. Et donc du coup, comme vous pouvez coder avec ce robot, et ben justement, il y a des petits des cours qui vont être mis à disposition pour apprendre à coder. Et ils vont justement être, enfin, leur programme et leur choix de cours vont être renforcés au fil du temps. Ils vont se perfectionner et proposer de plus en plus de cours pour justement faire monter en compétence les personnes et qu'elles puissent coder de manière de plus en plus perfectionnée sur leur robot. Et a priori, ça a l'air quand même assez fun à jouer. Alors, est-ce que j'ai une petite vidéo? Voilà, je peux vous montrer un petit peu des photos. Hop. Le petit robot, il a une bonne tête, hein, je trouve. Et voilà. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est, enfin, ce que je trouve comme approche qui est intéressante, c'est que vous pouvez déjà jouer avec et le contrôler, que ce soit en combat ou en course, directement out of the box, lorsque vous le sortez de la boîte. Mais vous pouvez ensuite le customiser, le perfectionner, en apprenant à coder et en rajoutant des modules, ce qui va vous permettre d'avoir des coups spéciaux pour lorsque vous êtes soit en course, soit en combat. Donc du coup, ça fait un peu genre Mario Kart, et lorsque vous lancez des coups spéciaux lors des courses, moi ça me fait bien délirer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il sera disponible, le Robo Master sera disponible à partir du 12 juin, donc a priori aujourd'hui, sur le store DJI.com, à partir de 499 dollars. Et vous pourrez acheter aussi un Playmore Kit avec un contrôleur dédié, des munitions, de plus de munitions, une batterie, etc., qui sera disponible à une date un peu plus tard. Et donc du coup, ça sera potentiellement une idée de cadeau de Noël. Voilà, a priori, c'est pas encore disponible. Alors, même si vous pouvez, ils disent que c'est disponible sur le DJI Store aujourd'hui, c'est pas disponible sur le store français. Donc malheureusement, on n'a pas encore de date pour la mise à disposition sur le store français. Hein. C'est pour ça que je vous donne le prix en dollars. Un robot tout choupi, on peut le coder en C et c'est le langage que je maîtrise le mieux. Ah bah, je sens Edmundsson que tu as l'air convaincu. Neveur, Marion se lâche. Il est 9h, j'ai terminé le Texcope. Attends, un peu à l'arrache, mais attends. Sur le fameux robot DJI. Après les drones et les gimbals, DJI se lance en tout cas dans les robots. Je trouve ça assez cool. J'espère en tout cas que l'émission vous a plu ce matin. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir avant de nous quitter. Je souhaite une très bonne journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous pour quelques minutes pour prendre des questions. Très bonne journée à vous. Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme à 8h pour le TechScope. Et vous aurez également le VIP, le jeudi VIP à 18h. Vous pourrez être en live et échanger directement avec Jérôme demain soir, tout simplement ouvert justement aux contributeurs sur Tipeee. Voilà. Pas de questions Platinium. Je n'aurais pas investi dans du Sphero qui se programme en Swift. Je me laisserais bien tenter par DJI. J'avoue qu'il me fait bien envie, hein, le petit robot. Hein. Même moi, j'étais pas convaincue par le Sphero, mais je vois plus de possibilités avec le DJI. Est-ce que tu vas tester le nouveau casque Bose? On essaye. On essaye, on essaye. Pour tout vous dire, on aimerait bien faire une vidéo. Mais attention, hein, j'ai pas encore le nouveau casque Bose. Mais on aimerait bien faire une vidéo qui compare le QC35-2 et le nouveau casque Bose, justement. Donc il faut encore qu'on ait un modèle, quoi. On l'a pas encore en main. En avant pour les robots de compagnie, ouais. L'ISS va ouvrir un service pour des vols commerciaux dès 2020. Oui, je crois que j'avais vu une information là-dessus. Je crois que je connais quelqu'un qui est sur ce programme-là. Tu es plus Panasonic GH5 ou FZ2000? Olius, moi j'utilise toujours mon petit G7. Hein. J'ai pas besoin pour l'instant d'avoir quelque chose de plus perfectionné. Donc je suis restée fidèle à mon petit G7. Et aussi faire un comparatif avec le Sony, ça pourrait être intéressant. J'ai toujours le Sony. Et en plus, c'est un des casques que j'utilise le plus souvent. Donc ouais. Hélène nous explique que l'animal montré dans le logo est un renard stylisé. Aussi, Firefox est en général un nom commun pour désigner le panda roux. Ailurus fulgens. Selon X, cet animal ne renvoyait pas suffisamment l'image souhaitée et n'était pas assez connu. Ils ont donc opté pour un renard. Super, merci beaucoup pour l'histoire, Hélène. Merci beaucoup d'avoir creusé ça. Question de casque audio. La différence de qualité entre le XM3 et le BackBeat Pro 2 est-elle importante au niveau de la réduction de bruit? Il s'agit de deux modèles que je n'ai pas testés, Damien, donc je ne vais pas pouvoir te répondre. Je suis désolée. Ouais, j'ai pas du tout testé ces deux modèles. Le tutoriel, tu l'as jeté, le radio réveil connecté. Le bonjour, bah en fait, il est planqué dans une armoire et il faut que je demande aux encombrants de le prendre parce que comme c'est un élément, un appareil électronique, il faut le recycler de manière appropriée. Je t'avoue que ça me fait un peu mal pour la planète d'avoir investi dans un truc comme ça que je dois jeter 3 mois après, quoi. Mais bon. Donc ouais, pour l'instant, il est dans un placard. Rien sur YouTube et les vidéos homophobes. Jérôme m'a dit qu'il en avait déjà parlé. C'est pour ça que j'en ai pas parlé ce matin. Et parmi ceux que tu as testés, tu recommandes lequel? Au niveau des casques, ça dépend ce que tu cherches. Si tu es plus sur un aspect esthétique, ben le PX de Bowers & Wilkins, c'est cool. Il a beaucoup plus de style. Tu peux te balader avec. Il est vraiment, vraiment sympa. Si c'est vraiment en termes de performance, de réduction de bruit, de qualité de son et tout, moi je pencherais plus pour le Sony. Et sinon, si c'est quelque chose de vraiment extra léger, le Bose est pas mal. Il est vraiment très léger, le Bose. Après, je trouve qu'au niveau des matériaux, il m'inspire pas confiance. Il est moche. Je vous fais une mini review là, du Bose que je suis en train de tester, le QC35-2. Il est moche, il fait cheap. C'est pas un objet dans lequel j'ai confiance en fait. Il paraît pas très solide. Je pense qu'il est solide hein, parce que Bose c'est de la bonne cam, mais vraiment il est moche quoi. Voilà, ça m'empêche pas de le tester pour l'instant. Tu peux déposer tout matériel électronique à jeter dans un magasin genre Fnac, Darty, Boulanger. Ouais, tu fais bien de me le dire. J'ai pas prévu d'aller encore dans un magasin comme ça. Il faudrait que je m'achète une place de concert pour aller le retirer à la Fnac. Ça peut être une bonne excuse. C'est uniquement pour écouter des podcasts. Après, ça dépend de l'environnement, s'il est bruyant autour de toi. Moi, j'avoue que j'avais beaucoup aimé le PX ou le PX ou le Sony, quoi. Voilà. Après le Sony, ce que je reproche, c'est qu'il est trop grand. Donc en fait, il a tendance à glisser sur ma tête. Et alors que le PX, il est bien maintenu, quoi. Moi, j'ai une petite tête, hein, donc je précise. Donc du coup, je pense que si je devais choisir et que je l'utilise pas mal en extérieur, je prendrais le PX. Par contre, si tu le portes sur vraiment de longues périodes, genre plusieurs heures d'affilée, 5 heures et tout, le Sony est plus confortable, il te fera moins mal aux oreilles. Le PX, il a un poil plus lourd et comme il applique un peu plus de pression, il peut générer une fatigue. Voilà. Tu sais si les autres produits Oli vont continuer de fonctionner? J'ai 3 ampoules et un truc qui analyse le sommeil. Normalement, Vaya, tu as reçu un email et il détaille un petit peu les produits qui vont continuer à fonctionner ou pas. Normalement, ils ont fait une annonce là-dessus pour tous ceux qui ont acheté un produit Oli. Tu peux te rendre, je pense, sur leur page, peut-être sur leur site internet encore ou sur leur page. Enfin, s'il y a encore une trace et normalement, tu devrais avoir l'annonce. Mais ils ont communiqué hein, là-dessus. Voilà, il est 9h08, il est temps que je vous laisse. Pourquoi un temps merdique mi-juin? Eh bien, écoute, c'est une très bonne question. Je pense que je vais vous laisser sur cette question-là. Un grand merci de m'avoir suivi ce matin. C'était un plaisir de vous retrouver, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Et puis moi, je vous retrouve lundi, mais n'oubliez pas, dès demain, vous retrouvez Jérôme à 8h du matin pour le prochain TechScope. Très bonne journée à tous et à bientôt!